When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux. Parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce troisième épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Terre Noire, un duo qui nous vient de Saint-Etienne, composé de deux frères, Raphaël et Théo. 2022 s'annonce plutôt pas mal pour la paire, puisque les frangins ont remporté la victoire de la révélation masculine le 11 février dernier, et qu'est sorti l'année dernière, leur album Les Forces Contraires, La Mort et la Lumière. Ce disque est une belle extension de leur premier album, Les Forces Contraires, paru l'année précédente. Et est issu de ce disque le titre « Jusqu'à mon dernier souffle », défendu sur la scène de la 37e cérémonie des Victoires de la Musique 2022.
Je suis pas un gars d'ici, je suis loin de chez moi. Les enfants de Terre Noire ont très bonne mémoire. Je me souviens la métard et les collines dorées par le soleil du soir. C'est l'heure de rentrer, papa nous sifflait, le jour s'embrume. Manger en silence devant la télé. Gamotière, Perrotière, Saint-Jean, Saint-Cham, La Métard, Le Château.
Interprété aux Victoires de la Musique et issu du même album également, le titre L'Infini fait partie du déjà large catalogue de Terre Noire. Et c'est avec un extrait que je vous annonce, ou vous rappelle, que Raphaël et Théo sont en tournée actuellement et qu'ils se produiront notamment à la Cigale de Paris le 10 mai prochain.
Lumière épaisse, faut qu'il repousse. Sur les beaux jours, plus de retouches. À l'infini, ça me va. Les traits mourir à l'infini, ça me va. Je rêve que tu sois heureuse, que tu vives heureuse. Je rêve que tu sois heureuse, je rêve que tu vives heureuse.
Donc je suis en la charmante compagnie de Terre Noire, qui est composée donc de Raphaël et Théo. Raphaël et Théo, comment ça va ?
Oh, ça va bien.
Ça va super.
Ça va bien. Franchement, pour être simple, on a changé d'heure. Donc on a maintenant la lumière qui dure jusqu'à très tard. 20h30, il fait encore jour. Et là, on se tient dans une pièce où le soleil tape dans notre dos.
Exactement.
Donc ça va bien. Là, en ce moment présent, ça va très bien.
Peut-être que d'ici 10 minutes, vous aurez trop chaud, mais bon.
Mais là, tout de suite, c'est vraiment
là,
idéal.
C'est parfait. Ok, bah super. Et bah, donc, je vais vous demander, quelle est votre daube ?
Alors, disclaimer. Nous, on peut pas trop parler de daube ni de trucs parce que, franchement, on aime tous les morceaux du monde et de la planète. Et on peut pas leur dire. Moi, je trouve ça condescendant. J'aime pas.
Je sais pas si j'aime tout. Je crois pas que ça aurait de dire que j'aime tous les morceaux du monde.
J'aime tous les morceaux que j'aime, je les aime. Et j'adore Un jour viendra. Je pense que ça s'appelle Couleur Vodka Orange de Gilles Dore.
Un jour viendra couleur vodka orange. Exactement, chanson déjà évoquée par notre amie Flore Benguigui de l'Impératrice, qui n'avait pas choisi cette chanson, mais qui avait dit « j'aurais pu choisir celle-ci si je n'avais pas choisi le cœur grenadine de Laurent Voulzy ». Je vois d'ailleurs la connexion logique.
Hein, il y a cette histoire de boisson mélangée, de cocktail en fait.
Exactement, voilà. Donc, alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'elle vous touche autant cette chanson ?
Je pense qu'elle nous a fait rire à la première écoute. Et le clip est drôle aussi. Enfin, en fait, le clip est très simple. Il faut le voir pour les gens qui nous écoutent. Mais si on peut l'expliquer, c'est donc Gilles Dore, qui est un chanteur d'une cinquantaine d'années, qui a certainement réalisé ce clip lui-même. Donc c'est beaucoup d'images de webcam, donc de lui devant son ordinateur, en intérieur, qui boit un Ricard au début. Et qui devient une vodka orange à un autre moment.
J'avais pas vu la chanson.
Si, il y a vraiment, il y a une métamorphose, parce que je pense que c'est ça, c'est l'histoire d'une, c'est la chanson qui parle d'une métamorphose, d'un espoir que représenterait la couleur vodka orange. D'ailleurs, j'ai jamais goûté vodka orange moi personnellement.
J'ai déjà goûté couleur vodka orange. Bien sûr qu'on a goûté vodka orange.
Vodka orange ?
Oh, tu te souviens.
Oui, peut-être
si on se souvient d'un
vodka
jour.
Vodka ananas, mais.
Ah, vodka... C'est différent, c'est vodka jaune ça.
Vodka jaune.
Il y a un jour que nous garderons rien que pour nous deux en secret, Raphaël, mais nous avons déjà bu une vodka orange.
Alors,
oui, je m'en souviens. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on en pense de la vodka orange alors ?
Le cocktail en lui-même, pour moi, c'est pas le. Pour moi, le jus d'orange, ça reste quand même une boisson du matin. Je pense qu'il y a quelque chose qui me chagrine qu'on puisse la mélanger à l'alcool. Parce que j'ai pas envie d'avoir un mauvais souvenir de la nuit avec une vodka orange que je pourrais plus boire, sachant que le matin, mon jus de fruits préféré personnellement, c'est le jus d'orange. Voilà, ouais. Parfois, il faut laisser le matin avec le matin et la nuit avec la nuit.
Oui, et puis en plus, c'est pas comme si t'allais boire de la Red Bull dès le matin, donc ça, tu peux y aller avec ta vodka.
Exactement, Red Bull le matin, c'est une grande violence, je trouve.
Oui, je suis d'accord.
C'est Will Smith, Chris Rock, quoi, je pense. Ben oui, on est au cœur de l'actualité
ça,
pop.
C'est le sujet qui fâche en ce moment.
Est-ce que tu penses, Raphaël, d'ailleurs, que c'était une vraie claque ou pas ?
Je pense que c'était une bonne grosse torgnole pour de vrai, ouais.
Ok, ok.
Bah ensuite, on a vu, donc on a passé au ralenti avec Raphaël là, tout à l'heure pour voir si c'était un vrai ou pas. On a dit, bon, en fait, c'est faux. Par contre, quand on t'écoute avec le son, ça fait comme ça. Hein.
Ouais.
Donc.
Ah ouais, moi j'y crois en vrai. Après, les motivations de l'un et de l'autre, enfin bon, je trouvais que cette histoire était un peu claquée au sol.
Ouais, c'est un peu. On n'a pas envie de ça en ce moment. On n'a pas envie de gens. On a déjà suffisamment de guerre, on n'a pas trop envie de gens qui ont l'air toutefois assez sympathiques.
Ouais.
Se mettre d'énormes bunes dans la tronche, quoi.
Exactement, on a plutôt besoin de Gilles Dore.
Gilles Dore, il chante la paix, parce qu'il y a une autre chanson qui parle de paix, d'égalité entre les êtres. Ouais. Bon, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais en tout cas, Vodka Orange, c'est quand même l'histoire d'un espoir de quelque chose, d'un espoir surréaliste.
Exactement. Alors, comment est-ce qu'on a, dans vos vies, quelle a été cette transition qui a fait qu'on passe d'un clip et d'une chanson comique, parce que c'est vrai que c'était une époque où les gens riaient beaucoup de ça, quoi. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez finalement prise au sérieux et que vous avez fini par l'apprécier ?
Ben, c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est une période où les textes pouvaient être... En fait, l'humour en musique... C'est quand même vachement compliqué.
Ouais.
C'est un peu ça le sujet de cette, enfin le sujet de, en tout cas la manière dont on regarde cette chanson. Par exemple, Patrick Sébastien, ou les chansons grivoises, elles sont ouvertement comiques.
Oui.
Et il y a une période qui était, je suis pas un spécialiste de ça, mais on va en parler ensemble. Vous me dites si je suis d'accord, mais dans les années 80, à l'image d'un Bachung ou de temps en temps Souchon. Où on arrivait à glisser de l'humour dans les textes.
Même Gainsbourg, je pense.
Gainsbourg était vraiment fort pour faire ça, d'ailleurs, pour rendre ça très élégant. Et où, par exemple, il y a aussi La Bamba Triste, qui est une autre chanson qui est un peu du même style que Vodka, Couleur Vodka Orange.
C'est vrai.
C'est un mélange de surréalisme. Enfin, c'est une manière d'écrire qui pouvait être commune à Pierre Billon, Bachung. Peut-être même Dao à certains endroits. Je sais pas si Dao a fait des chansons drôles, pas sûr.
Oh, mais je le vois bien faire ça en tout cas.
Mais il y avait quelque chose dans la. C'est-à-dire que le curseur de l'humour était autorisé.
Mm-mm.
Je pense qu'il y avait plus de légèreté.
Ouais.
Et aujourd'hui, on le regarde avec.
Mépris.
Uniquement, avec uniquement mépris ou ringardise. Alors que je pense que Gilles Dore, il est à la fois sérieux dans son texte, dans ses arrangements. Je pense qu'il s'est pas dit je vais faire marrer les gens.
Ouais.
Et nous, on le regarde en riant la première fois, et puis ensuite, on se dit que la chanson est quand même bien composée, il y a des vrais arrangements, tout a un peu vieilli, enfin, tout n'est pas réussi.
Mais c'est une chanson ambitieuse, en tout cas.
Ouais, il y a quelque chose, et du coup, elle reste, et on en parle encore, je sais pas, 20 ans après, je sais pas quand elle est écrite.
Je pense à 10 ans, ce truc, enfin, 2012, quelque chose comme ça.
Figurez-vous, j'ai regardé parce que je pensais que c'était plus vieux que ça, mais je crois que c'est 2016, en
ouais,
fait.
Ouais, ouais, c'est il y a pas si longtemps.
Donc il y a 6 ans, ouais.
Mais c'est un héritage. Gilles Dor a une carrière, en tout cas, avant, il passait sur TF1 dans les années 80, oui. On peut voir des images d'archives. Donc c'est un vieux de la vieille qui est resté connecté à cette année 80 qui a dû le construire. Et ce qui est drôle, c'est que c'est dans toute la francophonie comme ça, dans les années 80. Je pense à Marc Drouan qui fait Vita Vinaigrette. Je pense à plein d'artistes en fait qui ont décidé de mettre de l'humour et de faire cette espèce de drôle de ping-pong entre une vraie chanson, quelque chose de très sérieux, même dans le clip, dans l'ambition musicale, et des textes où tu te dis c'est très étrange d'avoir pensé à écrire ça, quoi. Et surtout, c'est surtout extrêmement absurde. C'est un humour très absurde, et pourtant je pense que l'humour des nuls ou des trucs comme ça en France, c'est pas exactement la même période. Et c'est drôle que l'absurde est pas joué exactement dans les mêmes années en fait entre musique et humour tel.
Oui, j'entends. Alors déjà, pour revenir effectivement sur la date, je pense qu'en fait on s'est un peu mépris tous en pensant que c'était un peu plus vieux parce que il y a vraiment un gros côté années 80.
Ouais, dans les sons, là-dedans. Exactement. Ouais.
Dans l'arrangement, donc il nous a bien lus. Mais je suis d'accord aussi par rapport à. J'ai vraiment l'impression que la France a de plus en plus de mal avec l'humour absurde en fait. Tout ce qui est humour anglais ou des choses comme ça, j'ai l'impression que ça va mal s'exporter. Et c'est vrai que si on essaie de le faire en français. J'ai l'impression que ça dégonfle un peu comme un soufflet.
Bon, on a quand même toujours Philippe Catherine qui se retrouve à faire chanter habillé en moustache dans le plus gros show télé américain, ouais, c'est Jimmy Fallon, tu vois.
Ouais.
Donc il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais je pense que l'humour est complexe à transporter. Ouais.
Est-ce qu'on vit dans un monde, dans une société de plus en plus sérieuse? Je pense que nos amis belges y mettent plus d'humour facilement dans leurs chansons, d'ailleurs. Un artiste comme Angèle, qu'on connaît tous sur son premier disque, il y avait quand même pas mal de choses assez drôles, légères, et même dans l'imagerie. Après, ça m'étonne pas qu'en France, on se prenne un petit peu plus au sérieux, quoi.
Ouais, qu'on se prenne au sérieux, ou en tout cas qu'on soit plus difficile à faire rire, je sais pas. Et puis d'ailleurs, c'est marrant parce que vous, donc, dans votre album qui vient de sortir, et je vous avais vu sur scène d'ailleurs, et je m'étais dit que effectivement, vous aviez quand même ce côté assez sérieux, assez exubérant, mais assez sérieux quand même. Et est-ce que c'est ça, c'est ce contraste-là avec notamment votre musique à vous qui peut. Vous faire respirer un petit peu avec des musiques drôles comme celle de Gilles Dor, enfin drôles entre guillemets, en tout cas ça a beaucoup fait rire, quoi. Est-ce que ça vous plaît, ça vous charme?
Ouais, carrément. Y a parmi les artistes qu'on aime vraiment, vraiment d'amour, il y a Frank Zappa. Et Frank Zappa, il a presque pensé, théorisé l'humour dans la musique. Je pense qu'il a dû écrire cette phrase, je sais pas ce qu'il en a fait, s'il en a fait un livre ou un film, mais Does your mouth belong in music? Enfin, est-ce que vraiment il a posé cette question? Lui, ça faisait partie de sa provocation. Ça faisait partie de. Je pense, le sérieux pour lui était compositionnel, d'un enjeu artistique, de jouerie, enfin, en tout cas, la virtuosité de ses musiciens, la virtuosité de ses compositions, la perfection musicale. Il voulait la détruire en étant vulgaire. Drôle, mais drôle parfois bourrin, potache, sexuel, politique. Donc il y a toujours eu sur beaucoup d'albums, il y a toujours de l'humour, mais un humour un peu acide, comme ça, acéré ou absurde.
Ou cartoon.
Il faisait beaucoup d'animations, Zappa, il faisait en pâte à modeler ou des choses comme ça, il a fait des films. Puis il s'est retrouvé à la fin de sa carrière avec le Yellow Shark Ensemble à faire des symphonies très sérieuses de musique. Contemporaine, il a écrit Gamin à Varèse à 20 ans. Zappa, il écrivait à Varèse pour demander des conseils. Edgar Varèse, qui est un compositeur français.
Le premier passage télé de Frank Zappa, il joue de la bicyclette. Il arrive, il se retrouve sur son noir et blanc, il a pas encore sa moustache. Et il y a tout plein d'Américains en costume, lui il arrive en hippie. Et ils disent alors vous jouez de la bicyclette?
Non, il arrive très sérieux.
Il arrive en costume très sérieux, ouais.
Ouais, comme un chef d'orchestre.
Et bon, il se fait, tout le monde se moque de lui et il commence à jouer de la bicyclette en tapant sur les rayons de l'essieu. C'est très drôle, du moyeu. C'est très drôle.
Ouais, ouais, et puis je suppose que ça a fini par charmer, du coup, pendant cette représentation.
Oui, il a toujours... L'humour lui a permis de toujours se tenir en marge, en fait. Mm. Je pense que ça peut servir à ça. Ça crée une distance entre l'œuvre et soi. Je pense que c'est une manière aussi... C'est une forme d'autodérision, de ne pas prendre trop au sérieux son travail. Et ce qui est beau dans Zappa, en l'occurrence, c'est qu'il y a énormément de sérieux, parce que c'était un fou de travail, ce mec qui faisait que travailler tout le temps, et tu pouvais pas jouer faux chez Zappa, sinon tu te faisais virer, ou enfin c'était presque le cas. Tu pouvais pas te droguer chez Zappa aussi. Mm-hmm. Et je pense aussi à Prince. Prince, par exemple, c'est un curseur qui est très étrange. Prince est une espèce de génie érotique, mystico-érotique, symboliste, qui glam, qui a changé le rapport... qui a changé la musique pop et qui a dû changer la vie de beaucoup de gens dans sa représentation aussi de comme à l'image d'une des chansons qui ouvre sa carrière, qui est Controversy. Est-ce que je suis hétéro, est-ce que je suis gay, est-ce que je suis blanc, est-ce que je suis noir,
est-ce que je crois en Dieu,
est-ce que je crois en moi, il pose ces questions dans Controversy. Et Prince, tout au long de sa carrière, il oscille entre une mégalomanie triomphale de lui-même et énormément d'humour. On le voit sur scène. Enfin,
et la volonté de mettre surtout sur le devant de la scène ses musiciens à tous les shows, où c'est quand même la fête et tout le monde a le droit à sa place. Ça fait pas trop le show de Michael Jackson où il y a un seul en scène.
Oui.
Et il est là et il fait son moonwalk et les gens hurlent et t'as pas vu un seul musicien qui a tourné avec lui.
C'est vrai.
Et du coup, il y a un live magnifique où on peut voir toute la flamboyance de Prince et aussi son humour. C'est le birthday show, qui c'est son propre anniversaire. Je sais plus dans quelle ville c'est.
1986, c'est Détroit ou Minneapolis.
Ouais, c'est soit Minneapolis ou Détroit.
Allez.
Et du coup, il à un moment donné, il se met nu, enfin en tout cas torse nu, et il commence à faire sur la. Et il y a un long moment où il se met à danser, comme ça. Théo est en train de vous montrer.
C'est dommage que vous ne voyez pas ce qui se passe.
Il lave les dents.
Et au bout d'un moment, il se met à mimer une fellation, mais il prend l'allégorie de la brosse à dents.
Okay.
Et du coup, il se brosse les dents comme
ça. Il se brosse les dents avant de faire la fellation.
Oui, il se brosse les dents avant de faire la fellation et il crache un peu d'eau. Bref, il faut vraiment, quand on est Prince avec ce sérieux là, c'est quelqu'un qui peut plus tard dans sa carrière lancer Purple Rain comme le roi de la couleur purple, comme le chevalier de l'amour et tout, où là il y a que du sérieux, il fait des grands ralentis sur lui-même et tout, et il y a d'autres moments où il est drôlissime en fait. Et même dans ses clips et même dans son imagerie, dans Kiss, il suffit de voir le clip de Kiss de Prince, où vraiment on sait pas comment se situer dans ses habits, dans sa manière de...
Bah, il se moque de lui-même, qui fait des vagues parfois, enfin, ça n'a aucun sens.
Mais ouais, manier, de toute façon l'humour c'est quand même extrêmement difficile à manier en musique, franchement. Et après, est-ce qu'il y a vraiment des choses drôle dans Prince, dans les chansons, dans les textes en eux-mêmes? Je pense à Diamonds and Pearls, pas sûr, même quand il devient Barbarella et tout, quand il fait ce concept album avec la journaliste qui l'appelle, c'est pas vraiment drôle. Non. Bref,
c'est en juste tout cas... la controverse là.
Oui. Mais alors du coup, c'est vrai que je me demande si cette distance qu'on a pu avoir, en tout cas avec Gilles d'Or, elle vient pas du fait que lui, en tout cas dans son clip et dans la façon d'avoir présenté son titre, je suis d'accord, il y a beaucoup d'humour dedans, mais il se montre très sérieux dans son process, alors que par exemple Philippe Catherine, etc., ils se permettent toutes les extravagances en mode effectivement j'arrive tel un clown, ou en tout cas j'arrive faire mon show.
Oui, mais je pense que c'est la même, c'est le même mindset des gens qui viennent à peu près de la même époque. Je pense qu'il y a un côté très anglo-saxon pour le coup, jusque boutiste, parce que c'est une musique assez ambitieuse, la musique de Philippe Catherine. Dans la variété de ce qu'il propose, il y a ses lives sont, je crois, très, enfin, pour l'avoir vu une fois en festival, musicalement ça fait partie des shows vraiment exigeants, étranges, avec de la musique, des choses bizarres. En fait, l'humour permet de faire passer énormément de choses dans le cas de Philippe Catherine. Donc pour moi, ce serait pas très différent. Je pense juste que la poésie qu'a Philippe Catherine, qu'il maîtrise très très bien, c'est son talent. C'est-à-dire qu'il arrive à faire passer la pilule de la poésie pure à l'intérieur d'un personnage et d'un masque de clown, comme souvent le cas. Enfin, le clown et le poète, quoi. Enfin, je le vois vraiment comme ça.
Ouais.
Parce que pour moi, il touche le sublime, Catherine, quand il se met à faire des chansons très sérieuses. Enfin, très sérieuse. Quand il se met à faire des chansons qui sont pas très drôles.
Ouais.
Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle...
Aimez-moi.
Oui, il y a Aimer moi, et puis il y en a une autre que j'adore qui est...
C'est un moment parfait,
elle s'appelle.
Ok.
Où là, c'est juste... Il décrit ce qui est un moment parfait pour lui. Le ciel est bleu, nanana. C'est plutôt... C'est plutôt Paul Éluard, quoi.
Mm.
Enfin, que... je sais pas qui... qu'un clown, quoi.
Ouais, très bien, ok. Ok, et donc, vous voyez que le process donc de Gilles d'Or, en tout cas dans ce titre-là, n'est pas le même, quoi. Donc ce serait inversé, plutôt. Quelqu'un qui partirait du sérieux pour faire passer quelque chose de drôle ?
Je sais pas si c'est une volonté absolue pour Gilles d'Or de faire une blague dans ce morceau.
Ouais.
Moi, je pense que ça fait partie intégrante de sa poésie bancale, à l'intérieur de ça. Et pour moi, c'est ce qui crée toujours cette espèce de suscitement d'intérêt à l'intérieur de l'écoute du morceau, c'est qu'on se demande toujours si c'est du lard ou du cochon. On se demande si c'est parodique d'un bachung des années 80 ou si c'est sa vraie écriture, si c'est de l'écriture automatique. Parce qu'en fait, dans tous les vers de ce titre, en fait, c'est juste des jeux de mots. James Dean dans un self, faux ticket, restaurant. En fait, c'est juste des appositions de concepts avec un mot commun et du coup, tu peux finir la phrase. Jupe en béton plissé. Enfin, tu vois, c'est juste toujours les mêmes structures. Donc, c'est comme un exercice un peu de poésie, mais très candide.
Oui, ouais,
c'est très candide. Mais il y a quand même, ça raconte toujours la même chose, celle, d'un monde un peu décadent où on aimerait bien qu'il devienne plus harmonieux. C'est ce qu'il raconte, en fait.
D'accord. Très bien. Ouais, c'est bien dit. T'allais dire quelque chose, Raphaël ?
Non, et en même temps, j'essaie de réfléchir pourquoi on a choisi cette chanson dans l'hymne à la daube. C'est bien qu'elle touche pas exactement son but.
Ouais.
Et je pense que, en tout cas, la daube, le nom de l'émission est super, l'hymne à la daube, et c'est toujours un peu dur, parce que si Gilles d'Or nous écoute, on aime sa chanson.
Ah bah, c'est un hymne à la daube.
et donc c'est la partie hymnesque, mais peut-être que, et là on en revient à nous-mêmes en tant que créateurs, peut-être que ce qui peut sonner comme de la daube, c'est quand on n'arrive pas tout à fait à produire ce qu'on veut produire. Quand il y a une distance, un décalage entre la volonté et le résultat. Et je pense que dans ce chemin un peu, cette diagonale un peu ratée, je pense que c'est là où ça sonne, c'est reçu étrangement pour un public. Donc je pense que le texte de... Peut-être qu'il n'est pas allé au bout de ce qu'il voulait dire, ou peut-être qu'on ne comprend pas suffisamment ce qu'il veut dire, mais en tout cas parce que... Il veut parler de la Troisième Guerre mondiale. Enfin, je pense qu'il y avait des choses assez sérieuses en fait à l'intérieur de son texte, mais peut-être qu'il est resté trop dissimulé derrière des effets de manche. Peut-être que son texte il est pas assez intime, je sais pas. En tant que quoi, il y a peut-être quelque chose qui est resté à la surface de ce qu'il a voulu copier.
Ouais.
Parce que c'est sûr qu'il y a du bachung là-dedans parce qu'il le cite. Gabi, vertige de l'argent, il dit.
Oui, là c'est clairement.
Donc, c'est deux titres de bachung au Gabi et vertige de l'amour. Donc il y a
en fait,
il y a la nostalgie en fait partout dans ce titre. Je pense, c'est un titre qui peut, et c'est pour ça qu'il touche, parce que la nostalgie est plus forte que ce qui n'est pas réussi. Donc, et peut-être que ce qui est beau, et pour aller dans l'autre sens, ce qui est beau et ce qui est le contraire de daubesque dans ce truc-là, c'est que le sujet est touché. La nostalgie de cette couleur vodka orange qui reviendra pas, elle est racontée parce que il parle d'un monde qui n'existe plus. D'une musicalité, d'un état d'esprit dont on essaye de définir les contours depuis tout à l'heure, qui n'existe plus. La légèreté, l'humour dans la musique, le psychédélique des arrangements, le too much, le baroque, enfin il y a un truc un peu comme ça. Ce goût de... Et puis cette manière aussi de se mettre en scène, pas parfaitement, parce que l'imagerie elle sert aussi le côté étrange du truc, c'est qu'il est imparfait, il a l'âge qu'il a, il n'est pas spécialement coiffé, il se prend simple dans son salon. Et...
Bah on a l'impression que c'est un homme amateur de l'ère YouTube qui s'est retrouvé devant la plateforme et qui s'est dit mais je peux faire finalement mes clips tout seul.
Ouais.
Et du coup il y a aussi ce côté très lofi et le côté de quelqu'un comme nous, c'est pas un artiste, c'est quelqu'un qu'on a trouvé dans YouTube.
Ouais, exactement.
Et du coup ça c'est un avatar qui est nouveau dans la culture du 21e siècle, c'est parfait inconnu qui ont ces espèces d'éclats de drôles de génie et qu'on aime pour des... comme on aimait très fort les films d'exploitation ou les nanars dans les années 80-90, quoi.
Ouais, ouais.
C'est vrai que c'est très internet, le fait qu'on parle de Lina Dope.
Et puis son clip, c'est très internet. Enfin, je crois qu'il doit vivre sur une île, où il a passé des vacances sur une île, parce qu'on le voit parfois bronzé dans le clip. Mais il y a pas mal aussi de photos de stock shot, ou ensuite dans toute la discographie, dans tous les clips de Gilles d'Or, il y a pas mal de photos ou de vidéos qu'il trouve dans des banques gratuites d'images. Et du coup, bah, ça, c'est un esthétique YouTube qui n'existait pas avant. On n'allait pas prendre dans des archives pour faire son propre travail. Ouais. Et ça, enfin, dans des archives, des bases de données, quoi. Et ça, c'est quand même vraiment drôle.
Ouais, c'est très juste. Super intéressant. Je trouve ça vachement bien que t'aies dit ça aussi, Raphaël, parce que c'est vrai que la question qu'on va se poser en général avec les invités que je reçois, ou quand eux me posent la question, c'est effectivement qu'est-ce qui fait d'une daube et quelle en est une. Mais quand tu n'es que réception du morceau, donc en général, moi, ce que je vais dire, c'est que tout simplement, il s'agit d'un morceau qui sort complètement du lot de ce que tu vas écouter habituellement. Ouais. Et tu t'étonnes.
T'as pas de code, en fait, pour le lire.
Voilà, exactement. Mmh. Tandis que du côté créateur, et c'est la première fois que je l'entends, et je trouve ça en tout cas pertinent, quoi. C'est effectivement quelqu'un qui n'a pas, qui a l'air en tout cas de ne pas avoir vraiment rempli sa mission dans la création de son morceau.
Je pense que c'est, en tout cas, nous on a fait des daubes. Peut-être même qu'on les a sortis un jour. Qu'il y a des gens qui disent vous avez sorti des daubes. Bon, pour l'instant, c'est le jeu, c'est oui, formidable, oui. C'est normal. Et enfin, c'est pas grave en tout cas.
Oui.
Et par contre, il y a des choses qui nous, en tout cas, les choses que j'ai toujours considérées moi comme des daubes ou des choses ratées que j'ai pu faire. C'est pour ça que je me suis permis de le dire quand quand j'entends Gildor, même si c'est vraiment pas une daube parce que c'est réussi pour le coup. Il allait au bout de quelque chose mine de rien, mais peut-être pas exact. Enfin bref. Mais en tout cas, les trucs plutôt ratés, c'est souvent les choses qui copient mal qu'on n'a pas investi de la bonne manière. Et c'est souvent j'explore en disant ça, je suis pas sûr de ce que je dis, mais c'est souvent une forme de d'imitation sans le cœur, quoi.
Une malhonnêteté un peu.
C'est quelque chose qui doit se rapprocher de la malhonnêteté, quelque chose qu'on n'a pas investi 100% avec son âme, quoi, qui reste superficiel. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de daubes bien faites. Mais on le ressent d'ailleurs, hein.
Oui.
Il y a des daubes bien faites qui sont pas considérées comme des daubes, qui pour moi sont des daubes. Et ça va pour tous les arts, parce qu'elles sont malhonnêtes. Et là, par contre, couleur vodka orange, c'est absolument pas ce qu'on peut dire.
Ouais,
c'est pas malhonnête. Donc on est sur un cas un peu spécial.
Ouais, oui, je suis complètement d'accord. C'est l'appréciation que je vais avoir moi aussi de la musique. Mais en fait, comme dans tout, hein, moi, par exemple, quand j'écrivais des articles et que c'était des, on m'avait mise sur un artiste sur lequel je devais écrire alors que j'appréciais pas spécialement sa musique, je trouvais mon papier mauvais parce que j'étais pas forcément honnête en faisant la promotion, etc. Et ça va être pareil pour de la musique. Effectivement, il va y avoir des gens qui vont se chercher des personnages et ça va plus ou moins marcher. Et je suis d'accord, Gildor, au moins, il a ce mérite d'être honnête et de croire très fort en ce qu'il fait, je trouve, en tout cas.
Ouais, ouais, c'est ouais, ouais,
bien sûr. Du coup, c'est vrai qu'on aime ou pas, on l'aime lui, quoi, en tout cas, on aime sa démarche.
C'est vrai ce que tu dis, on l'aime vraiment beaucoup.
Ouais.
Donc peut-être que. Ah, peut-être que peut-être que c'est tellement honnête que ça nous met mal à l'aise d'une certaine manière.
Ça c'est très possible aussi. Peut-être qu'il est trop à poil en fait dans
ouais,
cette
ouais,
musique.
Ouais, je pense.
Peut-être qu'il est trop à poil pour quelqu'un qui en plus s'est fait connaître via ça. Je suppose que s'il avait fait des cartons avant et qu'on le connaissait, qu'il avait une certaine renommée, peut-être que se permettant de sortir ce morceau-là après, ça aurait été mieux reçu. Sauf que là, on l'a découvert avec
raison.
Ce morceau.
Donc. Je suis sûr que Bachung, si tu rentres par une chanson précise, t'es pas loin d'un effet Gildor.
Grave.
Tu vois, les scènes de manager de je sais plus quel disque.
Play Blessure, je crois.
Play Blessure, enfin, des titres de Bachung Obscur qui sont de mauvais goût, franchement.
Mmh. C'est lequel ou sur lequel il est sur un bongo?
Je pense que c'est. Ah non, ça, sur Rio Grande. Ah, je sais plus.
Pour moi, je crois que scène de manager, c'est sur la pochette où il
mais
joue sur des bongos.
En tout cas, enfin, tout ça pour dire que. Le bon goût, c'est pas le. C'est intéressant d'observer l'œuvre. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est important
bah ouais.
D'observer l'œuvre tu peux pas difficilement prendre une œuvre telle comme ça sans rien pour essayer de comprendre. On a besoin quand même d'asseoir les blessures. On a besoin d'asseoir notre avis critique, nos émotions par rapport à autre chose. Il y a toujours une translation pour comprendre une partie.
Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Ça me rappelle une citation que j'avais vue il y a des années à une exposition Stanley Kubrick à la Cinémathèque, que j'avais trouvé super. Et je voyais des gens s'offusquer un petit peu devant une citation de lui qui avait été écrite sur le mur,
ouais.
Où il disait, alors je vais pas bien la citer, mais en gros, il disait que si tu sors un film, c'est parce que tu estimes que c'est le meilleur film qui puisse sortir sur tel sujet, en tout cas. Si toi-même, tu n'es pas convaincu de ta propre propre œuvre et que tu la sors quand même, ça va pas être bien en fait. Et effectivement, j'ai l'impression que Gilles Dore, lui, était content de ça et Absolument. Qu'il l'a sorti en pensant qu'il pouvait pas faire mieux sur ce sujet-là.
Certainement.
Et effectivement, je suis d'accord, ça se ressent. Ça se ressent et on va pas citer les noms et de toute façon, j'en ai pas qui me viennent. Mais je sais que voilà, dans la musique que moi je ne vais vraiment pas apprécier, c'est parce que il y a un décalage. On me ment en fait, j'ai l'impression, quand on sort ça.
Tu vois, hier j'ai regardé Boulevard de la Mort.
Ouais,
Tarantino,
il passait, effectivement.
Et je me dis, putain, je pense que si tu entres dans l'œuvre de Tarantino par. Si t'as aucun autre référence des autres films qu'il a pu réaliser, je pense que tu te dis pas que Tarantino est un grand réalisateur.
Ouais, c'est ça, Daube, ça.
Wow. Si, moi,
t'as pas aimé Théo ?
Oh là là, j'ai trouvé ça con comme un ballon. Mais même, enfin, j'ai trouvé même que la parodie de film de série Z avec un tueur et tout, oh, comme c'est lent, comme c'est long, comme c'est inintéressant. Par contre, il y a la scène où il y a le démembrement des victimes au moyen de scène où tu te fais, voilà, ça c'est Tarantino, le fou dingue qui est content et qui s'est fait plaisir.
Qui s'amuse, ouais.
Et tu sens la jouissance d'un homme un peu déglingo dans un truc.
T'as aimé, qu'est-ce que tu penses de Boulevard de la Mort ?
Moi, j'ai vraiment aimé parce que j'ai trouvé que c'était assez jouissif. C'est un comme Tarantino sait bien les faire. Hein. Seulement moi, par exemple, ça n'a pas marché devant Django, par exemple. Mais il va y avoir ce côté jouissif où je vais me mettre à la place des meufs qui sont victimes ou potentielles victimes de ce mec, et j'ai trop envie de lui fracasser le crâne et elles le font et du coup ça fait plaisir. Et je trouve ça bien, mais il y a un truc qui m'énerve dans ce film et c'est un truc qui va m'énerver dans tous les films de Tarantino, à partir de ce film, je crois, c'est la branlette, c'est la référence à soi-même constante. Comme tu disais, il y a énormément de références à ses propres films dans ce film-là. Il va y avoir du Kill Bill, il y a Reservoir Dogs, etc., qui sont des films que j'adore.
Il y a Duel aussi beaucoup.
Ouais, c'est vrai.
C'est Duel, en fait, c'est le même film que Duel.
C'est ça, effectivement, c'est vrai que ça y ressemble énormément. Et en fait, moi, je trouve que toutes les références, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, je pense que déjà c'est inévitable de faire référence à ce que toi tu aimes. Absolument. Si tu veux faire un truc que tu aimes,
je
pense. Et c'est bienvenu, mais il faut pas que ce soit gras. Et là, je trouve qu'il joue trop avec lui, avec ça en tout cas. Et c'est parce que je l'aime déjà avant le visionnage de ce film que je lui pardonne et que j'aime bien. Mais voilà, effectivement, moi j'aurais découvert Tarantino avec ce film, j'aurais pas été convaincue, je pense.
Et pour moi, je trouve qu'il y a un gros décalage dans le côté jouissif de Boulevard de la Mort où. Il montre 4 fois l'explosion des 4 meufs dans l'habitacle de la voiture où c'est horrible. Et en fait, le méchant à la fin il se prend juste 4 tatanes et c'est pas violent et sa tête elle explose pas et il lui coupe pas des bras et tout et tout. Donc je me suis dit, c'est bizarre, ça finit en truc un peu étrange où tu te dis ce qui a été le plus mis en scène et ce que Tarantino a pris le plus de plaisir de loin. C'était vraiment exploser les meufs, quoi.
Je suis d'accord. Il y a une distance qui se met parce que y a dans la mort des filles, il y a un voyeurisme qui est certain. Et le mec, oui, on aurait voulu que le film dure une heure sur la scène où il se fait défoncer. Et effectivement, ça dure 10 minutes. Après, bon, voilà. C'est pour ça que moi, j'ai cette limite-là avec Tarantino, personnellement.
Ouais,
ouais. Mais,
ouais,
voilà.
Puis ça fait bizarre de voir les frères Weinstein au générique d'un film.
Ouais.
quand on voit l'histoire de ce film.
Oui, oui.
Et
mais...
quand on voit certaines des images de ce film,
ouais.
Je trouve.
Et quand tu sais que Tarantino savait que Weinstein faisait.
Ouais.
Ça,
ouais. Moi, j'étais un petit peu mal à l'aise de ça, même très mal à l'aise, franchement. Et puis sa fascination. Son regard sur les femmes dans ce film, c'est un peu je sais pas, je trouve que ça et ça fait du bien parce que on voit bien que nos regards bougent assez vite à ces endroits-là.
Ouais.
Chose que j'aurais pas eu, je pense pas, j'aurais eu exactement cet avis-là il y a quand il est sorti, je sais pas quand il est
2007,
sorti.
2007, je crois que c'est.
Il y a un bon moment.
Ouais, c'est un peu vieux maintenant, ouais, effectivement.
En fait, après Kill Bill 2, je pense.
Plus en plus. Même si le côté revanche à la fin est hyper jouissif aussi,
voilà.
on est du côté des meufs à fond. Mais sinon. Je sais pas, c'est un peu... Je sais pas. Ça vieillit, quoi, ça.
Ça vieillit, et puis, comme Théo l'a fait très justement remarquer, je crois que c'est effectivement le film qui suit Kill Bill 2. On sort de 2 volumes d'un film que moi, je trouve super, où justement, là, au contraire, en fait, ça détonne vachement, parce que c'est une meuf qui va mettre des raclées aussi bien à des meufs qu'à des mecs pour arriver à destination de son but, qui est... Alors, effectivement, elle est motivée par sa vengeance par rapport à un mec, mais ce que j'aime bien dans le Kill Bill, c'est que c'est le mec qui finalement toujours un petit peu amoureux d'elle, c'est lui qui la romantise un petit peu, alors que là, elle veut juste le tuer, quoi. Et elle est trop contente de le tuer, ouais. et elle a raison, alors, entre guillemets, parce qu'on est dans un film, ne tuez pas des gens, mais s'il vous plaît, ça suffit. Mais je suis d'accord, ça détonne avec le propos de Kill Bill, où effectivement, là, il y a un voyeurisme dans Boulevard de la Mort qu'il y a dans Kill Bill, mais pas du même côté, quoi.
Peut-être, et moi, ce que je me suis dit aussi hier, c'est que moi, je suis pas du tout amateur ni connaisseur du cinéma de genre. Et j'ai l'impression que ce film, Boulevard de la Mort, fait référence à un cinéma que je connais pas.
Ouais.
Et donc, on revient pour moi à l'appréciation de ce qui est daube ou pas daube, nanar ou pas nanar. Parce que je sais que les gens qui adorent le cinéma se mettent à adorer les nanars au bout d'un moment.
Oui.
Et moi qui suis, j'aime le cinéma, mais je peux pas dire que je suis un cinéphile, c'est-à-dire que je connais pas l'étendue du cinéma dans ce qu'il a de plus obscur et tout. Chose qui est un peu plus le cas en musique où j'ai plus eu envie de rechercher machin, mais voilà, je me suis aussi dit, ah là je crois qu'il me manque des clés de référence pour comprendre exactement ce qu'il a voulu dire, et à la fois j'ai toujours un peu interdit face au fait de me dire j'aime pas une œuvre qui me dit si t'as pas aimé ce que je viens de te montrer, c'est parce que t'as pas la ref. J'ai jamais aimé les gens qui me disent quoi, t'as pas la ref, et une œuvre qui me dit oh t'as pas la ref, c'est pas un chef d'œuvre pour moi. Une œuvre, elle doit fonctionner avec ses références à l'intérieur d'elle, mais par contre elle doit avoir une existence qui lui est propre, géniale en elle-même, comme une œuvre d'ailleurs pour moi picturale ou sculpturale ou...
Oui, quitte à inviter ensuite à éveiller ta curiosité par rapport aux choses auxquelles elle va faire référence.
Elle va faire référence dans un second temps.
Voilà.
Moi j'aime bien cet ordre-là.
Ouais, oui,
bon, on peut parler d'art conceptuel, mais je suis un peu tranché là-dessus, mais...
Ouais, mais j'entends.
J'aime bien que la conception, la coulisse, le geste conceptuel, je suis toujours heureux de le connaître, mais dans un second temps.
Pareil, il y a eu Le Vent se lève là, de Miyazaki, qui est sorti il y a 10 ans, je pense.
Un des plus gros nanars du cinéma.
C'est magnifique. Quel nanar, je l'adore. C'est de visionnage en visionnage, ça devient mon préféré, je crois, un petit peu.
Et c'est le film de ta maturité.
C'est le film de la maturité de Miyazaki. Il a 88 ans, il a enfin fait le film où il n'a pas mis des bêtes magiques. Et en fait, c'est vraiment la fin du film où tu te dis d'accord, bon, je me suis pris l'histoire, je suis ému, c'est formidable. Pourquoi toute cette symbolique et qu'est-ce qui se passe en sous-texte à l'intérieur? Pourquoi il parle de... Pourquoi il a autant parlé d'avion? Pourquoi il fait ce écho à ce... En fait, comment il dresse le portrait du Japon, en fait? Et en fait, tu te rends compte qu'il dresse juste l'histoire du XXe siècle du Japon avec cette espèce d'histoire un petit peu hallucinée de l'ingénieur qui va faire les avions des kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et waouh, c'est incroyable, en fait, il y a plein de tout petits plans, tu te rends compte que tu vois des gens derrière la banque qui sont en train de pousser, et tu comprends que c'est la Grande Dépression et comment ça se passait au Japon.
C'est un peu l'anti-boulevard de la mort dans son nom. C'est au contraire l'œuvre de je trouve très à l'os, il a enlevé beaucoup de fantastique, et du coup il y a un espèce de grand sérieux qui est très impressionnant.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça rejoint ce qu'on disait, comme quand toi, Raphaël, tu disais notamment, si tu veux rentrer dans un... Comment je peux dire ça? Si tu veux rentrer dans un style que tu maîtrises pas forcément, comme on disait, le film de genre auquel fait référence, par exemple, Boulevard de la Mort, tu vas te diriger vers la plus grosse référence, en fait, pour rentrer dans le tas. Tarantino, tout le monde sait qui c'est, tout le monde a déjà vu un film de lui, ou alors on a vraiment entendu parler et voit à peu près de quoi il s'agit.
Ouais.
Si toi, tu n'es pas familier avec ce style-là que lui propose, et que tu commences avec ce film-là, et si tu as une mauvaise relation avec cette première approche, ça va te déglinguer un petit peu l'approche de tout ce que ça sous-tend un petit peu.
Ouais.
Et ça revient au fait que peut-être que Gilles Dor, encore une fois, voilà, si lui avait déjà pu instaurer un petit peu son personnage, mais plus en douceur, etc., on aurait mieux accueilli ce titre-là, parce qu'on aurait été plus familiarisé avec ce style qu'il a. Je ne saurais pas le catégoriser, d'ailleurs, mais...
J'ai commencé Gilles Dor... avec le titre qui s'appelle Blanc sans le N, ça fait Black.
Ouais.
Blanc sans le N, ça fait Black, parce que sans N, on est tous les mêmes. On est tous les mêmes, ça c'est le truc.
Fort, putain.
De quoi?
C'est fort.
Et trop bien cette idée. Bon, enfin, elle est très didactique.
Oui, oui.
Ensuite, ça fait un refrain où on se dit. Franchement, cette idée didactique, elle est trop rigolote.
Ouais.
Ensuite, c'est un peu. Wow, c'est démago chelou, tu vois. Enfin, c'est didactique.
Voilà,
c'est un peu trop didactique, c'est pas peut-être ce qu'on demande toujours à une chanson que ça soit un peu le côté allez je te prends la main, t'as bien compris ce que je t'ai
exactement.
Dit
exactement
hein. Mais par contre la figure de enfin cette manière d'enlever un mot sur, et dire qu'en fait parce que sur N on est tous pareils, on est tous les mêmes, c'est génial. Mais non, je pense qu'il dresse très vite un personnage, c'est-à-dire que c'est des idées qui détonnent, où on se dit pas qu'on prend une émotion puissante, mais par contre c'est inoubliable, c'est des concepts qui restent à l'intérieur de notre petit hippocampe là, et ça mémorisé pour toujours. Ouais. Blanc sans le N, ça fait black. Et il te regarde comme ça, et puis il a une manière de finir ses phrases où il dit toujours un E.
Oui.
Black. Comme quoi sans elle, on est tous les mêmes. Et là, des Adeline de R&B, un petit peu, on est tous les mêmes. Mais tu vois, c'est fou, c'est inoubliable. Mais on voit quelqu'un qui. On se dit, je vois ce qu'il est en train de faire, et on ne sent pas traversé de Gilles d'Or dans un sens, et émotionnellement.
Oui, 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 oui.
Mais on est heureux de le voir prendre autant de plaisir.
Et oui, il y a de ça aussi, effectivement.
Bah ouais, y a une jouissance à voir quelqu'un trop content de faire cette chanson et trop content d'avoir trouvé. Parce que dans son interprétation, on se rend bien compte qu'il est trop refait d'avoir trouvé ce concept pour son refrain.
Mmh.
Puisqu'il passe tout de suite parce qu'il le dit 12 fois.
Ah bah moi, j'aurais été trop fière si j'avais été lui aussi. Je crois que je l'aurais calé encore plus. Quand j'ai une blague qui marche bien en soirée, je la ressors 30 fois.
Voilà.
Mais je suis complètement d'accord aussi. Le fait de voir la personne vraiment... kiffer faire son truc, il y a pas, tu vois, enfin le nombre de fois où j'ai été à des concerts d'artistes dont j'appréciais pas spécialement le travail, déjà peut-être que le live va me faire apprécier plus parce que je sais pas, il se dégage autre chose, etc. Mais si même le live peut pas sauver mon appréciation du truc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le public qui est venu pour voir cet artiste et je vais voir les gens s'enjailler à fond dessus et ça va me rendre heureuse quand même et ça va me faire apprécier un peu plus l'artiste. Parce que voilà, ça rend heureux de voir les gens heureux, en fait.
Et surtout, d'ailleurs, je trouve que ça génère un truc très puissant, ça. C'est, moi, ça m'est déjà arrivé dans des concerts où j'avais un a priori négatif sur ce que j'allais voir. Mmh. Et je crois que le moment où tu te sens conquis par l'artiste et le rapport de l'artiste avec son public, c'est-à-dire que tout d'un coup, t'es extérieur à ce plaisir qu'ils vivent ensemble.
Ouais.
Et au bout d'un moment... t'es dedans.
Bah ouais.
Et cette sensation de tomber dedans, d'être conquis en quelques chansons, c'est inoubliable, quoi.
Bah moi, c'est vraiment, trop beau.
Ouais, et puis y a, la variété me fait cet effet-là. La variété, je veux dire... vraiment... Enfin, j'ai pas de... Je sais pas, ça peut être... pour moi, un artiste très bizarre de variété, c'est Gérard Lenormand, par exemple.
Mmh.
Et qui a un rapport à la scène particulier, et je me sens esthétiquement éloigné, je suis pas toujours touché facilement. Et bah, parfois des concerts de variété, la manière dont le public apprécie la musique, les gestes, la manière de chanter avec l'artiste, le fait d'être très sincère dans la manière d'offrir la chanson, je sais pas, il y a comme un truc dont je suis exclu, il y a une relation entre l'artiste et son public dont je suis exclu, et ça me fascine encore plus qu'un concert de Radiohead où je vais tout piger, quoi.
Oui, oui.
Il y a un truc vraiment parce que je comprends pas le rapport esthétique, je sais pas, il y a une jouissance en fait de ça.
Complètement. Et complètement.
Mais je pense que c'est pour ça que tu fais cette émission aussi.
Mais complètement.
C'est parce que c'est il y a un truc qui est fascinant quand un plaisir chez quelqu'un nous est pas permis. Je trouve ça sain et pur de ton geste de vouloir aller vers ce plaisir-là plutôt que de le
exactement.
Rejeter à 100%.
Exactement. Mais oui. Moi, l'idée de cette émission, elle m'est venue au moment où voilà, je suis tombée en amour de Mado Bamoi, là, une chanson des Jonas Brothers. Et cette chanson, j'en suis devenue folle. C'était ma chanson la plus écoutée sur Spotify en 2019, etc. Et toutes les fois où j'ai voulu passer le flambeau, en tout cas à des amis, etc., et que je voyais que ça ne marchait pas, je voyais que ouais, j'avais une communion avec ces artistes. Là que je n'avais pas avant d'ailleurs, qui excluait les autres et qui faisait que bah non, eux ils rentraient pas. Pourtant, tu vois, ils me faisaient confiance, on écoute à peu près les mêmes musiques, etc. Ouais. Là, il y a un truc qui pige pas et je me suis dit, bah c'est en même temps d'à côté, ça les amuse de me voir adorer cette chanson. Et ils se moquent pas en fait, c'est juste ils me voient être trop heureuse et c'est vrai que bah du coup ils le sont pour moi en fait. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Et je trouve ça trop bien en fait.
Ouais.
Du coup en général j'aime à peu près tous les concerts je crois, même si c'est un artiste que j'aime pas spécialement. Mais ouais de ouf. Et qu'est-ce qui va se passer si vous mettez cette chanson en voiture avec des potes ou à une soirée du coup?
Bon, on va bien rigoler je pense. Hein.
Ouais, il y a des gens qui peuvent l'adorer je pense.
Je sais comme aller écouter, c'est le genre de musique, enfin c'est la YouTube musique quoi, c'est les groupes Facebook tels que YOLO Music qui existent et tout, donc ils sont vraiment les viviers des morceaux où tu te dis tiens, ça existe, ça, c'est incroyable. Et du coup, tu dis, ah, je vais vous faire écouter ça, écoutez bien les paroles, et tout le monde va rigoler, quoi. Ouais. C'est comme Francky Vincent, le restaurant, c'est, comment il s'appelle ? Il s'appelle Droit de Réponse, je pense, en vrai.
Tu la connais,
tu connais
moi, je connais
Francky
le
Vincent,
restaurant.
Le restaurant, ouais, c'est un rêve à réaliser avec un personnage.
Attends, mais c'est pas le vrai titre, le restaurant ?
Droit de Réponse.
Droit de Réponse.
C'est parce pas que vrai.
C'est, parce que c'est... Je sais pas s'il a été immatriculé ce titre en fait.
Bah,
c'est,
ouais.
C'est un droit de réponse lors des prud'hommes en fait.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Il a sorti ça
allé,
comme
en fait.
Réponse. Il n'est pas allé se présenter au prud'homme parce que son équipe avait porté plainte contre lui et il a répondu cette chanson.
D'accord, ok. Putain, c'est fou.
C'est
d'accord.
Francky, ouais.
Mais donc, effectivement, donc les gens, a priori, vont plutôt apprécier ce titre si vous le partagez avec eux, mais donc pas forcément pour les mêmes raisons que vous. A priori.
Bah, je pense que c'est pour les mêmes raisons que nous, parce que c'est une chanson qui crée la communion par le rire. Mmh. Je pense que c'est comme ça qu'elle se partage beaucoup d'ailleurs chez les gens, c'est écoute ça, mais parce que les gens ils sont fascinés. Parce qu'il y a une fascination par le rire qui dit mais regarde, et tout le monde quand il écoute cette... Enfin, faire une daube horrible, t'as pas envie de la partager parce que tu dis mais c'est horrible.
Ouais.
Moi je pense à un morceau sur YOLO Music qui commence par un espèce de beat de trap et le premier mot qu'il dit c'est enculé ta mère. Et il rigole après. Et ça je vais pas le partager, je vais pas faire écouter cette musique parce qu'il y a un manque d'amour évident.
Oui, pourtant on a ri là.
Oui, bien sûr. Mais ensuite tu peux pas aller au bout de la chanson.
Non.
Alors que Gilles d'Or, tu sens qu'il y a une vague d'amour qui rentre et tu dis tiens, il y a quelqu'un, un chevalier Jedi qui a décidé de faire un geste dans le cosmos pour que le monde aille mieux.
Ouais.
Et du coup, ça se ressent et les gens ils rigolent, mais en même temps ils disent ah c'est drôle, t'as envie de chanter. Un jour viendra couleur vodka orange. Faut pas oublier qu'il y a des sacrées mélodies dans cette chanson. Et je me dis que s'il y avait un Quinry qui avait mieux produit ce truc et avec un grand chanteur, je pense que l'interprétation aussi, elle a tout son rôle dans le fait qu'on considère un morceau comme un peu d'obèsque ou pas. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui chante vraiment très bien cette chanson, c'est une grande chanson progressive avec des modulations ultra bien écrites, avec des leads, des mélodies de couplets ultra, ultra bien trouvées. Je sais pas. En tout cas, non, mais c'est une communion souvent par le rire. C'est comme la Bamba triste.
Oui.
C'est qu'il y a de la poésie à l'intérieur de cette chose, mais on écoute, on attend le clap. En contretemps sur la troisième mesure du refrain, on attend le moment où il dit écoutons hydrofilement. Tu vois, c'est.
On l'attend, c'est vrai.
On l'attend, quoi.
On le veut.
Je me sens, et là tout le monde se regarde. Définitivement, tu vois, c'est.
Comme une bande à triste. Fin de la chanson.
You feel. Definitely. Comme une bande à triste. Et là, il plonge dans la piscine avec de la.
Ça rend heureux en fait.
Ça rend.
Mais voilà, exactement.
Ah oui,
c'est la joie, c'est le rire, hein. C'est
comme
la communion.
Patrick Sébastien.
Comme alors, Patrick Sébastien vous rend heureux.
Patrick Sébastien, moi, me rend heureux. Nous deux, nous rend heureux. Mais il fait plus la scission, Patrick Sébastien.
Ouais, c'est... Non, je trouve que Patrick Sébastien, ça c'est encore une autre chose, c'est côté musique traditionnelle.
Ouais.
C'est de la musique de Feria, c'est de la musique de... Il y a quelque chose dans pour moi c'est que musical, hein. C'est que musicologique là, on peut s'arrêter, on peut prendre nos lunettes de musicologue.
Ouais.
Il y a quelque chose quand tu fais... Alors, c'est...
Là tu prends ta chaise et tu sautes avec.
C'est une gamme majeure.
Attention, je fais la basse. 1, 2, 3, 4.
Tous les tempos. C'est physique, acoustique. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent aller à l'encontre de Patrick Sébastien pour représenter quelque chose contre eux. Mais je parle même pas de Patrick Sébastien. Pour moi, je parle de ce type de musique qui est de la musique de Feria. Enfin, je sais pas comment on peut dire.
Tu sais pourquoi t'es là, pourquoi tu l'écoutes.
Je pense que vraiment, si là, on est dans une pièce fermée, si quelqu'un, s'il y avait 15 musiciens de Feria qui venaient là, au bout de les 10 personnes qui sont autour de nous,
tu soulèves le canapé.
Ouais. Dans 10 minutes, on est tous en train de faire un paquito. Immédiatement.
Non, mais c'est ça. Mais
c'est plus fort que nous, en fait.
Mais c'est ça, être un interprète, être une figure, être une icône, comme Patrick Sébastien l'est pour pas mal de gens en France, c'est quand même ceux des mariages qui font chier.
Ouais.
C'est ceux où t'es jeune et tu dis oh putain les vieux ils vont commencer à danser, ils sont trop bourrés. C'est ça qui représente aussi Patrick Sébastien.
Ouais,
c'est les oh putain c'est nos, les beaufs de notre famille là, ils vont commencer à devenir rastons et tout, ouais, et tout, ouais, en étant trop bourrés. C'est pour ça qu'il y a, il y a une grande scission avec Patrick Sébastien.
Exactement.
Parce que finalement, écoutez.
On est des fous, fous, complètement fous.
Et puis c'est une image de la France quoi. C'est...
Et alors, du coup, dernière question. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit Gilles d'Or plutôt que Patrick Sébastien quand on fait l'hymne de la chanson?
Parce que.
C'est plus, je pense que c'est plus. On a plus envie de faire découvrir Gilles d'Or. Mm. À la France, parce que la France écoute, la France entière écoute ton podcast, et ouais, ça doit dépasser même la France, jusqu'à l'autre bout du monde.
Costa Rica.
Mais
ouais,
les dinosaures
Panama,
écoutent ce
le
podcast.
Le compte en banque de Lina Ladeau est caché au Panama. Révélation.
Oh putain, ça y est.
Mediapart.
Merde, on coupera.
Non, je pense que c'est plus le côté petite pépite. C'est pas très connu. Tout le monde connaît Patrick Sébastien, c'est chiant, oui, de parler de ça. Non, Gilles d'Or, il y a quelque chose qui est plus. C'est plus bizarre, c'est plus étrange, c'est plus un rapport étrange à ce qui est le curseur entre bien et pas bien. Voilà, on a essayé d'en parler pendant une heure, on n'a toujours pas la réponse.
Mais j'aime bien qu'on n'ait jamais la réponse.
Et c'est pour ça qu'on est là.
Chacun non,
c'est
a sa hybride.
Réponse. Et voilà. Puis il y a aussi une autre petite pépite que je trouve formidable, c'est Cost, qui est un punk, lui, un vrai punk déglingo. Je crois qu'il est utilisé pour certains trucs de Gaspard Noé en mode performance trashos, chez Trashos. Et il s'avère qu'il a fait tout un album qui s'appelle Les Oxures. Donc les Oxures, c'est les petits parasites blancs qu'il y a dans nos rectums quand on est un peu, voilà. Nice. Et il a fait tout un album entier de 17 titres. Donc c'est quasiment un peu Philippe Catherine-esque, lui qui congèle ses défécations dans son frigo là.
Qui congelait,
excuse-moi.
C'est fini, ouais,
c'est au passé. Et il y a des morceaux incroyables comme Je mange les Oxures, Je caresse les Oxures, La vie est une infinité d'oxures et tout et tout. Et ça, c'est une chanson, c'est incroyable. Ça, c'est de la musique humoristique.
Ah bah ouais.
Trashos, de chez Trashos.
Ouais, mais il donne de l'amour à une chose qu'il n'a pas l'habitude de recevoir. Ouais.
Mais surtout si vous voyez le dessin de la pochette. C'est qu'on voit un petit tassico blanc avec un grand sourire.
Ah bah t'as trop envie de faire des câlins.
Et tout est fait au Tascam avec un enregistrement magnétique avec des sons de casserole derrière. Et c'est pas du tout mauvais. Hein.
Ah ouais.
Si tu décorelles. En fait, c'est comme quand tu fais en cinquième ton dépeçage de grenouille ou de souris en SVT. C'est que ça fout les boules, mais c'est quand même intéressant.
C'est pas mal. Ça, c'est une belle phrase de conclusion, je trouve. Ça fout les boules, mais c'est quand même intéressant. Bon, est-ce que vous avez des dernières paroles?
Non, tout a été dit. C'est le.
Écoutez, c'était magnifique. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci Raphaël.
Bye. Au revoir.